Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'heure suivante, comme d'habitude, vous allez écouter magazine culturel et d'autres rubriques apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour ce soir. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.wonews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La journée du patrimoine mondial 2019 à Bali soulève le système Subak. Le président de la République d'Indonésie a rencontré le ministre saoudien de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales pour discuter de la coopération entre Aramco et Pertamina. Bien qu'il y ait une campagne d'huile de palme négative, la balance commerciale vers l'Europe est positive. La participation des électeurs augmente considérablement aux Pays-Bas. Et enfin, le ministère de la Coordination des Affaires maritimes prépare des règles de gestion des ressources naturelles internationales des fonds marins. Voici le journal complet. La direction du patrimoine et de la diplomatie culturelle du ministère de l'Éducation et de la Culture organisera la célébration de la journée du patrimoine mondial le 18 avril 2019. Le thème cette année est le paysage rural. La célébration de la journée du patrimoine mondial sera centrée à Bali du 20 au 27 avril 2019 sous le titre « Paysage culturel de la province de Bali, le système Subak incarnant la philosophie de Trihitakarana ou communément appelé le système Subak ». Cela a été dit par le directeur du patrimoine et de la diplomatie culturelle, Najamuddin Ramli, au Media à Jakarta Langdi.
Nah, ini tahun ini perayaan warisan dunia kami fokuskan di Bali, di Denpasar dan sekitarnya.
Nous nous concentrons sur la célébration du patrimoine mondial de cette année à Bali, Denpasar et ses environs avec une variété d'activités. Nous présentons également des zones pour voir Subak à Bali. J'ai parlé un peu de Subak en tant que paysage villageois. Une zone villageoise, le paysage rural comprend Pura Ulum ainsi que le lac Batur dans la résidence de Bangli, puis le paysage de Subak et le temple de Subak le long du bassin versant Pakerisan dans la résidence de Gianyar et aussi la région de Chaturanga Batukaru à Tabanan et Buleleng et le temple Taman Ayu à Baru. Selon Najamuddin Ramli, l'objectif de la journée du patrimoine mondial est d'encourager l'humanité dans le monde entier, les groupes communautaires et les individus à prendre conscience de l'importance du patrimoine culturel pour leur vie, leurs identités et leur communauté. Actuellement, l'Indonésie possède 4 sites du patrimoine mondial, à savoir la zone du temple de Borobudur, la zone du temple de Prambanan, le site de l'homme antique à Sangiran et le système Subak à Bali. Le président indonésien Joko Widodo a rencontré le ministre saoudien de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales Khalid Al-Falih pour suivre la coopération entre Pertamina et Aramco de gérer la raffinerie de Cilacap. Comme rapporté à Antara Langdi, lors d'une réunion qui s'est tenue dimanche à Riyad, le président Joko Widodo a discuté de la coopération dans le secteur de l'énergie entre l'Indonésie et le Royaume d'Arabie Saoudite. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, qui accompagnait le président à la réunion, a déclaré que le ministre saoudien de l'énergie, de l'industrie et des ressources minérales s'est félicité des efforts déployés par le président indonésien afin que les sociétés saoudiennes puissent maintenir leur coopération. La ministre Retno a déclaré qu'il y en avait une question qui est toujours en suspens liée à la question de l'évaluation des actifs qui continue à être discutée. Le président Joko Widodo a espéré que ce problème a été résolu immédiatement. L'agence centrale des statistiques BPS a déclaré que malgré des campagnes négatives pour les produits à base d'huile de palme qui sont les principales exportations d'Indonésie, la balance commerciale entre l'Indonésie et l'Union européenne reste positive. Lors d'une conférence de presse à Jakarta, le chef de BPS, Suharyanto, a déclaré lundi qu'en général, la balance commerciale vers l'Europe était toujours positive. Suharyanto expliquait que de janvier à mars 2019, la valeur des exportations vers l'Union européenne s'élevait à 3,6 milliards de dollars américains, les importations à 3,02 milliards de dollars américains. Ainsi, la balance commerciale de l'Indonésie à l'Union européenne présente toujours un excédent d'environ 580 millions de dollars américains. Le comité électoral outre-mer de La Haye aux Pays-Bas a tenu de l'élection présidentielle et législative en 2019. Le vote a eu lieu au bureau de vote situé à l'école indonésienne de La Haye le 13 avril. Sur la base d'un communiqué de presse reçu par Voice of Indonesia à Jakarta lundi, le président du comité des élections outre-mer à La Haye 2019, Mulyo Wijono, a déclaré que la participation des électeurs indonésiens aux élections avait considérablement augmenté par rapport à l'année précédente. En 2014, pas moins de 2328 personnes ont participé aux élections et le nombre est monté en flèche de façon drastique à 4530 personnes en 2019, ce qui signifie qu'il augmente deux fois. Le comité des élections à l'étranger de La Haye continue d'innover, par exemple en procédant à une inscription en ligne et en utilisant un code ABAR pour les électeurs qui ont reçu le formulaire C6 afin que le processus d'inscription soit plus efficace. Le ministère de la Coordination des Affaires maritimes prépare actuellement des règles juridiques concernant la gestion des ressources naturelles sur les fonds marins internationaux ou qui sont en dehors de la mer territoriale indonésienne. Selon Budi Purwanto, haut fonctionnaire du ministère de la Coordination des Affaires maritimes, en tant que pays partie à la Convention internationale du droit de la mer en 1982, l'Indonésie a le droit d'explorer et d'exploiter les ressources minérales et énergétiques des fonds marins internationaux. Budi Purwanto, lors d'un séminaire sur le droit relatif à l'exploitation minière des fonds marins à l'Université Brawijaya Malang dans l'Est de Java, a déclaré lundi que l'Indonésie en tant que partie avait le droit, mais l'Indonésie n'avait pas encore de réglementation pour faire l'exploration et l'exploitation. Cerita, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Sergeant Lanten, après le journal, mettons nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « L'Indonésie jouit d'un excédent commercial ». L'Agence centrale de la statistique, BPS, a publié la valeur de la balance commerciale de l'Indonésie en mars 2019 avec un excédent de 540 millions de dollars américains, soit plus élevé de la position excédentaire de février 2019 d'un montant de 330 millions de dollars américains en février 2019. Le chef de BPS, Suharyanto, a déclaré lundi lors d'une conférence de presse dans le bâtiment de BPS à Jakarta que de janvier à mars 2019, la balance commerciale indonésienne avait encore un déficit de 0,19 milliards de dollars ou 190 millions de dollars américains. C'est parce que la balance commerciale non pétrolière et gazière subit toujours un excédent, tandis que la balance commerciale non pétrolière et gazière est toujours déficitaire. Les résultats à l'exportation d'Indonésie sont indissociables de la situation économique mondiale qui est encore médiocre. La balance des échanges non pétrolières et gazières, dont les résultats ont chuté de manière spectaculaire par rapport à l'année dernière, témoigne de la difficulté des résultats à l'exportation de l'Indonésie. Au premier trimestre de cette année, la balance hors pétrole et gaz ne peut enregistrer qu'un excédent d'1,15 milliard de dollars américains. Ce résultat a chuté à 61,6% par rapport au premier trimestre de l'année dernière, qui s'élevait à 2,99 milliards de dollars américains. encore une fois, les prix des produits de base sont la cause. Parce que le volume des exportations de charbon au cours du premier trimestre de cette année est encore plus élevé que le premier trimestre de l'année dernière. Cependant, comme le prix a fortement chuté, la valeur totale des exportations de charbon doit être corrigée à 9,26% au premier trimestre de cette année. Bien que l'on sache que le charbon joue un plus grand rôle dans les exportations totales d'Indonésie, à savoir 15,26%. La baisse des prix sur le marché mondial est également ressentie par la catégorie des biens, des graisses et des huiles animales ou végétales dominées par l'huile de palme. Selon Suharyanto, le prix de l'huile de palme qui s'est affaibli à 15,2% en est la cause. Le pire sort est subi par des produits en caoutchouc. La forte baisse des prix du caoutchouc a contraint trois pays producteurs de caoutchouc, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, à accepter de réduire leur production. L'excédent commercial au mars peut être considéré comme un succès, compte tenu la situation économique mondiale n'est toujours pas aisée. Un grand nombre de principaux pays ciblés par les exportations indonésiennes ont connu un affaiblissement de la demande alors que les prix des produits de base restent volatiles. Le gouvernement doit intensifier la diversification du marché. Le moment est venu de rechercher de nouveaux marchés en dehors des principaux pays exportateurs. C'est Ritor, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 16 avril 1917, Vladimir Lénine est retourné à Petrograd, l'exil de Finlande. Le 16 avril 1917 est une date historique. Ce jour-là, Vladimir Lénine, dirigeant du parti bolchevique, est rentré en Russie après une décennie d'exil. En exil, Lénine a dirigé une révolution qui a établi avec succès le premier pays marxiste au monde et formé une nouvelle entité appelée l'Union soviétique. Il est né en 1870. Lénine est entraîné dans une révolution après l'exécution de son frère en 1887 pour avoir participé à l'assassinat du tsar Alexandre III. Le 16 avril 1952, la journée de commandement des forces spéciales, ou Kopassus. Au début de sa création, le 16 avril 1952, Kopassus a été nommé l'unité de commandement de l'armée territorium 3. Siliwangi a été nommé unité de commandement de l'armée territorium 3 Siliwangi. Il voulait une unité de commandement des forces spéciales qui peut se déplacer rapidement et agir. Avait changé de nom plusieurs fois et à partir du 26 décembre 1986, cette force d'élite était nommée Commandement des Forces Spéciales ou Kopassus. Le 16 avril 2007, massacre de Virginia Tech. Le massacre de Virginia Tech a été perpétré lors de deux fusillades séparées par un étudiant de 23 ans. Il s'appelle Cho Song-hui. Le 16 avril 2007, à l'Institut Polytechnique et l'Université d'État Virginia en Virginie aux États-Unis, les représentants du gouvernement et l'université ont confirmé le nombre de morts de 32 personnes, y compris le tireur. Cet événement a fait la fusillade de civils la plus sanglante de l'histoire des États-Unis. L'une des victimes est venue d'Indonésie, qui s'appelle Partahi Mamura Halomuan Lumban Toruan de Medan, Sumatra du Nord, doctorante à la faculté de génie civil. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku.
Sida Trafidel ala voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Bon choix, chantée par Malik and the Essentials. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voyus.id. Maintenant, nous allons vous présenter Mode Indonésie intitulée L'Indonésie encourage la coopération maritime entre l'ASEAN et l'Indie dans la région Indo-Pacifique. Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mode Indonésie intitulée L'Indonésie encourage la coopération maritime ASEAN-Indie dans la région Indo-Pacifique. Le directeur de la coopération intérieure de l'ASEAN, qui est également le président par intérim de la réunion des autres fonctionnaires de l'ASEAN Indonésie, M. Benny Y.P. Siahaan, lors de la 21e réunion des autres fonctionnaires de l'ASEAN Indi, ou AISOM, à New Delhi, lundi du 11 au 12 avril 2019, a déclaré que l'ASEAN et l'Indi pourraient se concentrer sur une coopération maritime concrète dans la région Indo-Pacifique, comme par exemple sur la question de la sécurité maritime, la gestion des déchets plastiques, la connectivité maritime, etc. Comme cité par la page kemlu.go.id dans une discussion sur l'architecture régionale et les relations entre les grands pays, Benny Y.P. Siahaan a déclaré que l'ASEAN était en train de développer les perspectives Indo-Pacifiques de l'ASEAN et se féliciter de l'engagement de l'Indi à contribuer au développement de l'architecture de la région Indo-Pacifique. Selon lui, le mécanisme du sommet de l'Asie de l'Est actuellement possédé par l'ASEAN facilitera la mise en œuvre et la promotion de la coopération. À la même occasion, Vijay Thakur Singh, le président de la délégation indienne, a apprécié l'Indonésie pour l'initiative d'organiser le dialogue de haut niveau sur la coopération Indo-Pacifique à Jakarta le 20 mars 2019. Vijay Thakur Singh a également souligné l'engagement de l'Inde de maintenir la stabilité, la paix et la prospérité dans la région. La coopération mutuellement bénéfique doit toujours être une priorité dans le contexte d'une situation géopolitique dynamique et les efforts d'un grand pays de se battre pour l'influence dans la région. La 21e réunion des fonctionnaires de l'ASEAN et l'Inde ou AISOM et la réunion annuelle des autres responsables entre l'Inde et l'ASEAN. La réunion a été présidée conjointement par l'Inde et la Thaïlande en tant que pays coordinateur de la coopération entre l'ASEAN et l'Inde et assistée par les représentants de l'ASEAN et l'Inde ainsi que le secrétariat de l'ASEAN. Plusieurs plans de coopération concrètes ont été proposés à la réunion, entre autres dans le domaine des affaires maritimes en matière de l'économie bleue, de culture, de sciences et de technologie, et un plan d'action pour remplir l'année de la coopération touristique entre l'ASEAN et l'Inde cette année. La réunion a également discuté diverses questions d'intérêt mutuel, à savoir le développement et l'orientation future de la coopération entre l'ASEAN et l'Inde, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la connectivité, la coopération économique, le changement climatique, la gestion des catastrophes, l'éducation, les relations intercommunautaires, etc. En outre, lors de la réunion, on a également été effectué l'échange de points de vue sur des problèmes mondiaux et l'évolution de l'architecture économique régionale, y compris sur le développement des négociations du partenariat économique régional global. Chers amis, c'était Monde Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « La vie adolescente » chantée par Marcel. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter magazine culturel intitulé « Cascade de Talang Kemulun ».
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant la cascade Talang Kemulun. Kerinci est l'un des régions en province Jambi. Cette région est surnommée « Sekepal Tanah Surga ». Le surnom est en effet épinglé sur la région Kerinci en raison de sa beauté naturelle. Il y a beaucoup de beaux sites touristiques là-bas. L'un d'entre eux est la cascade Talang Kemulun. Cette cascade est située dans le village Talang Kemulun, dans le district du lac Kerinci. La cascade se trouve à environ 35 km du centre-ville Sungai Penuh, capitale de région Kerinci. Il faut environ une heure pour arriver à ce village. En arrivant au village Kemulun, vous devez encore traverser la forêt et les plantations luxuriantes à pied pendant environ une heure. Pendant le voyage, vous sentirez la belle atmosphère, l'air calme et frais. Après une heure de marche, vous arriverez à la cascade avec 12 niveaux. L'eau est lourde, claire et froide. Ici, vous pouvez vous contenter de prendre des photos et de jouer à l'eau. Si vous voulez conduire l'adrénaline, vous pouvez également sauter dans les temps profond en dessous de la cascade et nager sous la cascade. Fait intéressant autour du débit de la rivière Talang Kemulun, vous pouvez également trouver de nombreux types d'agates. Pour les amoureux de l'agate, vous devez venir à cette cascade et regardez les rochers qui s'y trouvent. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer la nuit autour de cette cascade, vous pouvez installer une tente et vous détendre en plein air. Mais n'oubliez pas d'apporter une veste ou des vêtements épais, car l'air autour de la cascade est assez froid, surtout la nuit. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Aku berlari mencoba memperbaiki segala kemurungan hatimu, bahwa kau selalu sendu. Aku takkan pernah tahu,
takkan pernah tahu,
jika kamu tak akan mau memberiku cara untuk menenteramkan hati. Yeah.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih.
Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang
dan tersenyum lagi.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih.
Écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Sourire encore » chantée par Abi Rama. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, pour la rue suivante, nous allons présenter « Apprendre l'Indonésien ». Pour aujourd'hui, le sujet est « J'habite à Yogyakarta » ou en indonésien « Aku tinggal di Jogja ».
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis, on se retrouve dans l'émission « Apprendre l'indonésien ». Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Aku tinggal di Jogja ». « Aku tinggal di Jogja ». En français, « J'habite ». À Jogja. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Aku tinggal di Jogja » en français « J'habite à Jogja ». Tony est dans la région du temple de Prambanan avec son ami Joko.
Tony, di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Oke, Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir aku tinggal di Jogja. Aku tinggal di Jogja. En français, j'habite à Jogja. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? En français, où habites-tu? Di daerah mana? Di daerah mana? En français, dans quelle région? Jalan Malioboro. Jalan Malioboro. En français, rue Malioboro. Rumah kamu di mana? Rumah kamu di mana? En français, où est ta maison? Di Garuda. Dekat dari sini. Di Garuda. Dekat dari sini. En français, à Garuda. Près d'ici. Pour demander ou with quelqu'un, di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Ou kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? En français, où habites-tu? Pour répondre à cette question, vous pouvez nommer l'hôtel, le logement, la rue ou le quartier. Comme par exemple, Bapak tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? En français, où habitez-vous, monsieur? Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. En français, j'habite à Jakarta. D'autres exemples. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? En français, où habites-tu? Saya tinggal di Jalan Sudirman. Saya tinggal di Jalan Sudirman. En français, j'habite à la rue Sudirman. Si quelqu'un mentionne son lieu de résidence ou vous voulez savoir dans quelle région il se trouve, vous pouvez demander di daerah mana? Di daerah mana? Comme par exemple, kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? En français, où habites-tu? Di Asri. Di Asri. En français, à Asri. Di daerah mana? Di daerah mana? En français, dans quelle région? Bantul. Bantul. En français, Bantul. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, nous allons présenter encore une fois une conversation en indonésien.
Tony, di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.
Mengapa banyak keraguan dan
Voice of Indonesia.
Chers auditrices et auditeurs, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée « Toi » chantée par Wendy Mark. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur une chanson malaise intitulée Tuanku Tambusai. La chanson intitulée Tuanku Tambusai a été composée par Husni Tamrin. Il parle de la figure de Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai est un combattant de Dalu-Dalu, Rokan Hulu, Riau. Au cours de sa vie, il s'est battu contre les colonisateurs hollandais. Il a reçu le titre de Padri Harimau Rokan. Tuanku Tambusai a été nommé en héros national par le gouvernement indonésien en 1995. La musique semble mélancolique avec une caractéristique vocale malaise distincte appelée cengko ou en rythme tokdu. Tuanku Tambusai est l'une des chansons de l'album Cik Minah Sayang sorti en 1993. Bon, c'est du talk, écoutons la chanson d'Yet Bustami intitulée Tuanku Tambusai. Bon écoute.
Gelar Madrid
Voice of Indonesia.
Sebut sudah dalam hikayat Laksmana hang tua setia amanah. Menjunjung harkat juga martabat, jangan melayu buang zuriat.
Chers auditrices et auditeurs, c'est l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Resitu avec nous, Voice of Indonesia de l'Ironisie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.